On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia.
Bonsoir.
Et Anne Corpet. Bonjour Anne.
Bonsoir Raphaël.
Au sommaire, un Premier ministre pour la Syrie, Mohamed al-Bashir, déjà en charge de la province d'Idlib pour les rebelles islamistes, promet d'ici mars de garantir les libertés pour les femmes, notamment. Israël, qui bombarde les sites militaires syriens, exige du nouveau pouvoir un engagement à ne pas laisser l'Iran se réimplanter. C'est tout de suite l'essentiel. Les Syriens ont donc un nouveau Premier ministre, avant même nous Français d'ailleurs, serait-on tenté d'ajouter. Mohamed al-Bashir, c'est son nom. C'est lui qui dirigeait jusqu'à présent le gouvernement de salut public de la province d'Idlib. Lui qu'on voyait hier à la droite, des images de la rencontre à Damas entre celui qui est désormais son prédécesseur en costume bleu à gauche et le chef rebelle al-Julani. Écoutez sa première déclaration.
Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion de cabinet à laquelle ont participé une équipe du gouvernement du Salut qui travaillait à Idlib et dans ses environs, ainsi que le gouvernement du régime déchu. Cela signifie qu'il y aura un gouvernement syrien qui traitera ces dossiers et gérera les affaires pendant une période de transition. Si Dieu le veut, elle pourrait se terminer le 1er mars prochain.
Voilà, et d'ici là, eh bien, le nouveau pouvoir déclare qu'il est interdit d'imposer aux femmes des tenues vestimentaires religieuses, que s'en prendre à des journalistes serait passible de prison, que tous ceux qui ont été forcés de s'enrôler dans l'armée du régime seront amnistiés, et puis un responsable du commandement des opérations militaires, la structure qui englobe les différentes forces rebelles islamistes, va jusqu'à dire qu'il souhaite voir dissoutes toutes les factions armées du pays pour les réunir sous la seule et même bannière du ministère de la Défense. Patricia Lémonière, le nouveau pouvoir islamiste cherche à montrer patte blanche pour ne plus être sur la liste des organisations terroristes,
oui,
États-Unis et d'autres.
Il a tout intérêt, puisque de se maintenir sur cette liste, c'est aussi l'argent, en fait, qui risque de ne pas venir, en particulier des pays occidentaux qui sont, pour l'instant, qui attendent. Et ce pays, qui est tout à reconstruire, parce que quand on est allé à Damas, on sait que dans la Ghouta, tout est détruit. Enfin bon, que c'est un pays qui est entièrement détruit. Et donc, il faut absolument, c'est même pas un plan Marshall qu'il faut, c'est pire que, c'est plus que ça. Alors, que va-t-on faire? Est-ce que les Occidentaux vont y aller en disant, bon, ils nous donnent des gages, on va voir. Est-ce que ça va être le Qatar? Est-ce que ça va être finalement l'Arabie Saoudite, pays islamiste, fréquentable, puisqu'il n'exporte pas de djihad, mais enfin, pays islamiste quand même, et qui travaille l'islam aussi dans les pays étrangers, occidentaux, africains, etc., pour défendre les valeurs auxquelles ils sont attachés, auxquelles ils croient. Donc, moi, je crois que les deux mois qui viennent, effectivement, même jusqu'au mois de mars, comme ils se donnent jusqu'au mois de mars, pour faire leurs preuves, sont fondamentaux. Reste à savoir ce que va faire Daesh. On a bien vu qu'aujourd'hui ou hier, je ne sais pas quand ce massacre en quelque sorte s'est passé, une cinquantaine de soldats de l'armée syrienne qui quittaient Homs en direction effectivement du désert ont été arrêtés puis assassinés par l'État islamique. Donc l'État islamique, lui, a tout intérêt dans un contexte un peu de trouble de semer le chaos. Parce qu'à ce moment-là, de semer la zizanie entre les groupes, parce qu'on voit bien que les gens qui sont remontés de Dera n'ont rien à voir avec ceux qui viennent d'Idlib. Mmh. Ceux qui viennent de Dera ont été financés par la France, les États-Unis, ouais. Etc. Beaucoup.
Ouais.
C'est pas du tout d'être financé par les Turcs, ouais. Par exemple. Ouais. Donc tout ça, il va falloir. Et puis qu'on va faire avec les Kurdes, c'est la grande question. Mmh. Donc tout ça peut tourner très vite au chaos. D'où les mesures fortes prises aujourd'hui en disant que tous les groupes doivent se rassembler. Est-ce que le YPG, comme on dit, les Kurdes vont faire partie de cette grande alliance.
Ils étaient prêts à négocier avec
Al-Julani. Dès le premier jour, ils l'ont dit. Ouais. Mais il y a des rancœurs tenaces. Enfin, pour ceux qui y sont allés, comme moi et sûrement vous, vous savez qu'il y a des rancœurs tenaces entre les Kurdes et les populations arabes, ne serait-ce qu'à Dera.
Ouais.
Pas à Dera, dans le Nord.
Intégrer, incorporer à l'armée toutes les factions armées du pays, comment y parvenir quand on voit à quel point ce pays est morcelé?
Je crois que vraiment la priorité, comme le disait Patricia pour le moment, c'est d'assurer les services de base à la population. D'ailleurs, le nouveau Premier ministre Al-Bashir vient de donner une interview à Al Jazeera. J'ai juste pu voir quelques extraits. Et ce qu'il dit, c'est il est temps pour le peuple de jouir de la stabilité et du calme et d'être pris en charge, de savoir que son gouvernement est là pour lui fournir les services essentiels dont il a besoin. Donc c'est vraiment là-dessus que va se jouer sa crédibilité, en quelque sorte, auprès, effectivement, de cette mosaïque que constitue la société syrienne. Il y a les Kurdes au nord-est, les sunnites, les chiites, les druzes, les alaouites, et j'en passe, les chrétiens, bien sûr. Et effectivement, ces communautés ont été dressées les unes contre les autres aussi par une dictature sanguinaire qui a duré 54 ans. Ouais. Alors, on va pas tourner la page du jour au lendemain. 54 ans de dictature. Vraiment, on s'en rend compte là au fur et à mesure que les gens sortent des prisons, que certains documents sont mis au jour, à quel point cette dictature a été terrible. Et là, la population, ces jours-ci, est encore dans la liesse. Je crois que c'est ça qu'il faut souligner, c'est ce qu'on ressent partout. Il y a un sentiment de délivrance. On voit des images partout de gens, même de chrétiens, célébrer l'arrivée de ces rebelles islamistes dans leur ville, ce qui est quand même incroyable. Et c'est dire à quel point la fin de cette dictature, c'est vraiment l'événement majeur qui a été attendu par tous. Après, évidemment, il va falloir être patient, il va falloir, et ça va être très compliqué.
Des promesses, celles du nouveau pouvoir, qui ne semblent pas en tout cas émouvoir outre mesure Israël. L'État hébreu multiplie les frappes sur les installations militaires syriennes, plus de 300 raids depuis la chute de Bachar, et menace les nouveaux maîtres de Damas de réagir avec force s'ils autorisent l'Iran à se réimplanter en Syrie. Ludivine Blasi.
Ce matin, à l'aube, des bruits d'explosion retentissent à Damas. Depuis dimanche, l'armée israélienne intensifie ses frappes. Elle vise des radars, des dépôts d'armes, de munitions, ainsi que des centres de recherche et des aéroports utilisés par l'armée. Bilan, les principaux sites militaires en Syrie sont détruits, affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Le seul intérêt que nous avons est la sécurité d'Israël et de ses citoyens. C'est pourquoi nous avons attaqué des systèmes d'armes stratégiques, comme par exemple des restes d'armes chimiques ou des missiles et des roquettes à longue portée, afin qu'ils ne tombent pas entre les mains d'extrémistes.
Des affirmations que les déclarations de deux sources de sécurité régionales et une source syrienne viennent remettre en question. Elles affirment que les troupes israéliennes sont en ce moment même à 25 km au sud-ouest de Damas, soit en plein territoire syrien. Israël, qui dément, a déjà profité de la chute de Bachar el-Assad pour déployer ses troupes sur le plateau du Golan, plus précisément dans la zone tampon entre le territoire israélien et le territoire syrien, une zone que l'ONU s'était efforcée de démilitariser depuis 50 ans.
Les garants de la paix sur le plateau du Golan sont en contact permanent avec Israël. Le message de New York est le même que le leur. C'est une violation du traité de démilitarisation signé en 1974.
Israël insiste, cette opération est limitée et temporaire. Elle ne vise qu'à contrer l'idéologie extrême de l'islam radical. Dans les faits, elle permet aussi à Israël de bloquer l'acheminement des armes iraniennes au Hezbollah libanais.
Patricia, Israël sait que c'est maintenant qu'il peut mettre la Syrie définitivement hors d'état de nuire et peut-être porter un coup fatal à l'Iran ?
Alors, je crois que le coup fatal à l'Iran, il est déjà porté. Hein. C'est sans Israël qu'il a été porté, il faut bien le dire, qu'il a été porté par cette descente d'un groupe qui est quand même sunnite, et qui a des relations, le moins que l'on puisse dire, les plus conflictuelles avec l'Iran, et ce, depuis toujours. On n'a qu'à écouter les propos, d'ailleurs, de Julani ou de Al-Sharad, maintenant, puisque c'est son nom, qu'il a repris dans la mosquée des Omeyyades.
Et la mise à sac de l'ambassade d'Iran.
Et la mise à sac, voilà. Donc là-dessus... Vous savez, à Damas, la population n'en pouvait plus des Iraniens. Il y avait un culte, le culte des martyrs, qui est un culte très iranien, hein, très chiite, qui avait envahi la vie de Damas, la ville de Damas, et les Syriens n'en pouvaient plus de voir toutes ces choses, etc. Ils n'en pouvaient plus, des Iraniens, et donc je ne pense pas que le premier coup mortel à l'Iran et à sa stratégie a été porté par Julani et ses hommes. Là, qu'est-ce que fait Israël ? et de l'avis de tous les Occidentaux qui applaudissent, effectivement, c'est détruire les armes chimiques. Parce que, et en particulier, ce fameux laboratoire qui était près de Damas, où ils fabriquaient les armes qui avaient encore, il n'y a pas si longtemps, en 2017 et 2018, été utilisées contre des populations syriennes.
La route orientale, voilà. Notamment.
Hein. Alors, il y avait la route avant, et là, c'était plus au nord. Donc, ce qui avait valu, d'ailleurs, à Trump d'intervenir dans un premier temps, et après, dans un deuxième temps, nous, avec Trump. Ça, tout le monde ne peut que se... Enfin, les gens ne peuvent se féliciter. Après, détruire les navires d'un pays, les avions d'un pays, les aéroports d'un pays, c'est détruire la richesse, le peu de richesse qui restait à ce pays. Alors, vous me direz, ces garçons-là qui prennent le pouvoir, ce ne sont sûrement pas des enfants de cœur et on peut s'en méfier. Enfin, néanmoins, en vertu du droit international, moi, ça me... Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, je dis que ça me pose juste question. Peut-on détruire des richesses d'un pays, même si ce sont des armées, même si ce sont des pistes d'aérodromes, détruire tout ce qui est chimique et tout ce qui est armes qui pourraient être utilisées...
Armes de destruction massive.
Armes de destruction massive et armes tout court qui peuvent être utilisées contre Israël. Israël invoque toujours son droit à la défense. Enfin, le droit à la défense, est-ce détruire la richesse d'un pays ? C'est la question que je pose ce soir.
Oui, il y a eu 480 frappes israéliennes au cours des dernières 48 heures. Hein. Il y a des aérodromes détruits et effectivement, la flotte. On a l'impression qu'Israël profite du vide sécuritaire, de la priorité de Joulani qui est d'essayer de construire quelque chose pour affaiblir, voire détruire toute la puissance de son voisin.
Et peut-être la capacité de projection aussi d'une future administration syrienne régionale dans la région.
Pour Israël, la chute d'Assad est fondamentalement une bonne nouvelle. Mmh. C'était l'allié de l'Iran. Mais c'est vrai que c'est pas sans complications, puisque effectivement, ces rebelles sont islamistes. Israël reste leur ennemi juré. Bon, cela dit...
Même si les premières déclarations de ces islamistes ne vont pas... À l'encontre d'Israël.
Cela dit, leur préoccupation dans leur déclaration.
Il y a une conjonction d'intérêts ponctuellement avec
pour
Israël.
Pour l'instant, sur le maintien d'une Syrie, essayer de construire une Syrie unie. Benjamin Netanyahou aussi, il faut parler du fait qu'il empiète sur le territoire syrien.
Je voulais dire, rendre irréversible l'annexion du Golan.
Notamment le Golan, mais il va au-delà. C'est-à-dire, il va sur la base, sur la zone tampon qui avait été établie en 1974. L'annexion du Golan, elle est déjà acquise, elle est déjà constatée. Elle a même été avalisée par Donald Trump qui va revenir à la Maison-Blanche le 20 janvier. Mais là, il a conquis la zone tampon. Il va au-delà. Il est allé sur le mont Hermon, qui n'est qu'à 40 km de Damas, qui surplombe la capitale. Il s'offre des positions qui peuvent être franchement belliqueuses. Et là, ça ravit son extrême droite, qui a des visées territoriales un peu partout. Alors, il l'a ravi. Il a conquis des espaces au Liban, à Gaza, maintenant en Syrie. Où s'arrêtera Benjamin Netanyahou ? On peut se poser la question.
On peut dire en tout cas qu'il y a une conjonction de planètes qui est en sa faveur, parce qu'il comparaissait quand même aujourd'hui devant des juges pour détournement de fonds et corruption. Et toutes ces histoires-là, effectivement, ne peut que l'arranger, parce qu'il y a d'autres enjeux.
Donc, les intérêts supérieurs d'Israël,
les intérêts supérieurs de la nation aux yeux des Israéliens passent avant les motifs corruptibles de son pays. Je veux juste revenir sur une chose. Ce qui était intéressant dans l'interview aujourd'hui du Premier ministre... celui
d'Al-Bashir.
D'Al-Bashir, le Premier ministre en quelque sorte par intérim, peut-être, de Syrie. Et c'est qu'il l'a donné à qui ? À Al-Jazeera. Voilà. Et là, il y a des liens qui se tissent tout de suite avec le Qatar.
Donc, ça rappelle un peu Mohamed Morsi.
Ça rappelle quand même Morsi, ça rappelle des tas de choses qui nous font dire qu'on va forcément, sauf si cet homme s'avère alors être un vrai chef politique, ce qu'on ignore peut-être, il faut lui laisser, etc. Enfin, moi, pour en avoir fréquenté plusieurs, je suis très, très méfiante sur le fait que, par exemple, ils disent les femmes peuvent effectivement s'habiller comme elles le veulent. À Idlib, les femmes, quand elles s'habillaient trop court, avec le manteau qui n'était pas jusqu'à la chaussure, elle se retrouvait en prison. Donc effectivement, à Damas, c'est un peu difficile à faire accepter, et d'autant qu'il y a quand même beaucoup de communautés et qu'il veut, il veut gagner son pari, être le chef.
Un pays morcelé, on l'a dit, et parmi ces zones qui échappent au contrôle des nouveaux maîtres de Damas, il y a le nord-est de la Syrie. Karim Yayaoui, vous êtes tout proche, hein, à la frontière côté turc. À Gaziantep pour France 24, la Turquie qui n'a pas hésité à tirer parti, on parlait d'Israël, mais la Turquie elle aussi a tiré parti de la situation dans les zones kurdes du nord de la Syrie.
Exactement, et Recep Tayyip Erdogan qui explique qu'il veut une solution inclusive pour que la Syrie retrouve le chemin de la stabilité. Eh bien, on a le sentiment que inclusive, mais sans les Kurdes. En tout cas, un certain nombre de groupes, notamment l'armée nationale syrienne qui a été créée en 2017 sous l'égide de la Turquie, a lancé une offensive sur la ville de Manjib contre les forces kurdes qui sont présentes dans cette zone depuis 2016. Ces mêmes forces pro-turques annoncées il y a quelques jours qu'ils avaient pris l'enclave de Tal Rifat, qui était tenue par les Kurdes. On le sait, depuis des années, Recep Tayyip Erdogan a fait de la ville, notamment de Manjib, une des principales cibles de la Turquie. Il a menacé à plusieurs reprises d'y envoyer son armée. Les autorités turques considèrent que les forces kurdes de Syrie sont proches du PKK, organisation terroriste aux yeux du pouvoir turc. En tout cas, cette offensive anti-kurde, elle se joue évidemment sur le sol syrien via ces groupes militaires islamistes qui sont proches de la Turquie, mais aussi à l'intérieur du pays. Il y a quelques jours, on a vu la maire d'une ville assez importante de Turquie, une ville qui s'appelle Batman, qui compte 450 000 habitants, démise de ses fonctions dans cette région kurde où les Kurdes sont très implantés. Elle avait obtenu plus de 60% au municipal. Elle a été démise de ses fonctions sous prétexte qu'elle serait visée par une enquête pour sa proximité avec un groupe terroriste. Et ça s'est produit à plusieurs reprises ces dernières semaines. On sent bien que Recep Tayyip Erdogan veut profiter de la situation, de ce tournant historique qui s'est joué en Syrie, pour s'en prendre à ses meilleurs ennemis, les Kurdes, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Recep Tayyip Erdogan qui s'est fait menaçant à l'égard de tous ceux qui apporteraient de l'instabilité en Syrie. Écoutez-le.
Désormais, nous ne pouvons plus permettre que la Syrie soit à nouveau divisée. Nous ne pourrons jamais consentir à ce que les terres du pays redeviennent une zone de conflit. Nous ne pouvons accepter aucune provocation qui empêcherait le retour du frère, du peuple syrien, dans ses foyers.
Et oui, car l'objectif, Karim, avancé par Recep Tayyip Erdogan, c'est bien de permettre aux réfugiés de regagner la Syrie. Mais ces réfugiés le veulent-ils ?
Alors, on était au poste frontière d'Onjupinar. C'est à une cinquantaine de kilomètres de là où nous sommes ce soir, à quelques encablures de la ville de Kilis. De l'autre côté, à une cinquantaine de kilomètres, c'est Alep, grande ville de Syrie. Et ceux qu'on a rencontrés, évidemment, c'est ceux qui veulent partir et nous ont raconté avec beaucoup d'émotion à quel point c'était un jour inespéré. Certains sont restés sans nouvelles depuis des années de leur famille. Ils ne savent pas comment ils vont retrouver leur pays, ils ne savent pas si tous leurs proches sont encore en vie. Donc c'est vrai qu'il y a une forme d'euphorie. Mais ce qu'on a constaté, c'est que ce n'était pas forcément une foule importante qui s'était amassée au niveau de ce poste frontière, parce que beaucoup de Syriens qui vivent en Turquie attendent de voir. Il y a un nouveau Premier ministre, mais ils voient bien que la situation est encore extrêmement instable, parce que les groupes qui ont chassé du pouvoir El-Assad, évidemment, ont parfois des objectifs différents. Est-ce que la stabilité va pouvoir s'imposer dans le pays ? Et puis, il y a tout un tas d'habitants ici syriens en Turquie qui ont en quelque sorte fait leur vie loin de leur pays d'origine, qui ont vu grandir leurs enfants ici. Et donc, ils ne veulent pas tout sacrifier avant d'être complètement certain que la Syrie retrouve le chemin de la stabilité. En tout cas, Recep Tayyip Erdogan, lui, veut qu'un maximum de Syriens quittent le pays. Les chiffres sont environ de 3 millions de Syriens dans le pays officiellement. Il serait jusqu'à 4 millions officieusement. Et lui veut accélérer ce retour des Syriens dans leur pays d'origine. D'ailleurs, un point de sortie, un point frontalier va être ouvert. Il y en a à peu près 3 dans la région où nous sommes et 6 sur l'ensemble de la frontière. Et donc, Recep Tayyip Erdogan veut clairement accélérer le départ des Syriens de Turquie. Mais comme je vous le disais, tous ne sont pas prêts à partir immédiatement et préfèrent attendre.
Merci Karim Yayaoui en direct de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, tout près de la frontière syrienne. Patricia Lémonière, Erdogan voit dans la chute de Bachar une double opportunité, se débarrasser de la question syrienne tout en affaiblissant les Kurdes.
Il voit surtout une opportunité vis-à-vis des Kurdes. Son objectif, c'est quand même de créer lui aussi une zone tampon. Il n'y a pas qu'Israël qui veut créer des zones tampons. Lui, il veut aussi créer une zone tampon sur les 900 km de frontière, un peu plus de 900 km de frontière qu'il a avec la Syrie. Là, pour l'instant, il a quelques centaines qu'il avait pris en 2018, si mes souvenirs sont exacts. Mais là, il voudrait faire une zone tampon de 30, 40, on ne sait pas bien, kilomètres à l'intérieur. Et alors, avant, il disait, écoutez, comme ça, je pourrais mettre tous mes réfugiés dans cette zone, comme ça, ils pourront prendre les villes et les villages qui sont là et puis s'installer. Alors là, maintenant, ça tombe un peu à l'eau, parce que comme la Syrie est libérée, les réfugiés n'auront pas vouloir aller dans la fameuse zone tampon. Et donc, ce projet-là, il ne l'a pas du tout abandonné. Il veut bien que les réfugiés rentrent chez eux parce qu'il y a la crise économique, parce que vous savez, c'est dans ces pays, on se sert, c'est les boucs émissaires à toute la crise. Donc c'est
pas que dans ces pays.
Enfin, je veux dire, dans tous les pays, les réfugiés sont chaque fois les boucs émissaires, mais encore plus en Turquie, si vous le voulez bien. Donc en Turquie, c'est vraiment, il y a un grand focus qui est mis sur les réfugiés syriens. Et là, c'est tout à fait logique. Les réfugiés syriens, tout comme les réfugiés qui sont en France, on en a très peu. Mais ceux qui sont en Allemagne, on fait leur vie là-bas. Donc je pense que ce projet-là sera un peu plus dur à faire appliquer. Et puis l'autre projet que poursuit quand même, je crois, Erdogan, c'est montrer à court terme, enfin, être le maître des lieux et de la zone à court terme, parce que l'Iran est défait, Israël gère sa sécurité, et lui se veut le futur faiseur de roi de la région.
Restaurateur d'une forme d'empire ottoman, en tout cas, voilà. D'une zone d'influence. Il y a les réfugiés, on l'a bien compris, ceux qui veulent rentrer, et puis ceux qui, ici en Europe, vous l'avez évoqué, Patricia, pourraient demain se voir contraints de partir. Il y a des réactions assez dures de pays européens, Anne Corpet, qui tout bonnement suspendent l'examen des demandes d'asile quand ce n'est pas franchement pour envisager même de les expulser, comme c'est le cas de l'Autriche.
Oui, et il n'a pas fallu attendre 48 heures pour que plus qu'un pays. Il y a eu l'Allemagne, l'Autriche, les Suédois, les Danois, les Norvégiens, les Pays-Bas et j'en passe, qui ont dit on va suspendre les demandes d'asile. C'est évidemment un message à destination de politique intérieure. En Allemagne notamment, il faut se souvenir quand même qu'en 2015, Angela Merkel avait accueilli plus d'un million de réfugiés syriens, que ça pose un problème politique. On a vu l'extrême droite monter aux élections. L'AFD a enregistré des scores inédits dans ce pays. Et il va y avoir bientôt des nouvelles élections législatives en Allemagne. Et je lisais qu'aujourd'hui, trois personnes ont été arrêtées, soupçonnées de vouloir commettre un attentat djihadiste sur le sol allemand. Donc évidemment, la tentation, c'est de dire, hop, on renvoie tous les réfugiés en Syrie, puisque Bachar est tombé. Sauf que, évidemment, la situation sécuritaire n'est pas encore stabilisée, et que ces mêmes pays envoient aussi le message selon lequel, attention, ces rebelles islamistes, il faut s'en méfier, il faut faire attention. On considère toujours que c'est un groupe terroriste, le HTC. Donc il y a quand même une espèce de contradiction entre, d'un côté, dire aux Syriens qui sont venus trouver refuge, c'est bon, vous pouvez rentrer chez eux.
C'est un pays sûr, mais en même temps, nous, on reste prudents.
On va pas lever les sanctions, ce sont des terroristes. Bon, en France, on attend aussi une décision imminente. Il y a 700 demandes d'asile de Syriens qui sont en cours. Je crois que
c'est l'Office qui doit décider.
Voilà, et le HCR, donc le Haut Commissariat aux Réfugiés, dit, lui, attention, il faut patienter, il faut attendre. Ce qu'on a quand même beaucoup entendu dans les manifestations de joie chez les réfugiés syriens, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs, c'est ce profond désir de participer à la reconstruction de leur pays, si tant est que la situation sécuritaire est stabilisée.
Patricia, il y a ceux qui pourraient vouloir... alors, il y a ceux qui sont déjà en Europe, il y a ceux qui pourraient aussi vouloir rentrer en Europe, ou en tout cas fuir la Syrie. On peut décemment s'opposer à des habitants en danger aujourd'hui au motif qu'ils sont à la ouïe, qu'ils auraient été considérés comme trop proches, ou en tout cas préservés par le pouvoir de Bachar el-Assad, ou est-ce qu'il y a une obligation là aussi à protéger ces populations? Et puis le cas aussi de ces djihadistes français qui pourraient tenter ou profiter du chaos pour tenter de rentrer ici en France.
Alors tout ça effectivement pose des questions de droit, et ça va être l'office chez nous pour les réfugiés qui va trancher. Mais au-delà de cette question purement formelle, se pose la question quand c'est un tortionnaire du régime de Bachar al-Assad qui demande l'asile, parce qu'il dit si je rentre, là-bas je vais être en procès, etc. Que fait-on? Les Allemands ont tranché, il y a eu des procès qui ont été faits parce qu'ils avaient été arrêtés, retrouvés, et donc ils ont été poursuivis par la justice allemande. Il y a eu un ou deux procès très, très, très célèbres en Allemagne avec des fortes condamnations. Mais ça pose une question. Par exemple, en Allemagne, il y a encore 44 000 dossiers de Syriens qui arrivaient là, on ne sait pas, parce que c'était sûrement des Syriens qui étaient réfugiés ou au Liban ou en Jordanie et qui trouvaient la situation trop déplorable, parce que franchement, dans les camps et au Liban, dans les camps jordaniens au Liban, c'est vraiment pas la vie rose. Donc, qui préféraient essayer de venir demander refuge. Il y a quand même 44 000 dossiers maintenant en Allemagne qui sont suspendus et qui sont, voilà. Donc, mais qui va venir, quoi? Qui va venir? Et on a effectivement les fameux Français.
Alors, les revenants.
Les revenants, mais parmi eux, ils sont une centaines dans le Nord. On a vu, effectivement, vous avez tous vu, d'ailleurs, c'était votre confrère, Wassim Sadr, qui a merveilleusement fait un travail que tout le monde a salué, où on entendait les Français, et c'est lui qui a mis en valeur, effectivement, ces vidéos très intéressantes. Mais il y a aussi ceux qui sont enfermés dans la zone kurde, et c'est bien ceux-ci qui sont les plus dangereux, parce que les autres, ils avaient refait leur vie libre avec femmes, enfants, etc. Mais dans la zone kurde, ils sont enfermés dans des camps où ils n'ont plus que se durcir un peu plus. Et c'est ceux-ci qui sont dangereux, parce que si les Kurdes sont attaqués par les Turcs, ils ne vont pas garder pour nous les djihadistes, ils vont partir.
Et donc, c'est là que se pose la question de que feront les Américains, puisque Donald Trump dit qu'il veut sortir de Syrie. Oui. Il avait déjà tenté de le faire lors de son premier mandat.
Il avait abandonné,
mais s'il n'y a plus les Américains pour lutter contre l'État islamique en Syrie, on peut s'attendre.
Ils sont 900. Pour l'instant.
Merci beaucoup, Patricia Lemonnier. Anne Corpé, on va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans l'essentiel dans 3 minutes.